ATSA tient à souligner que le projet Cuisine ton quartier a été enregistré sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles le projet est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse.
Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bonjour, Saloua Médry.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien, merci vous-même.
Oui. Alors, on est toujours au Centre culturel franco-manitobain et on accueille donc Saloua Médry, qui a vraiment plusieurs chapeaux et vous allez voir comme elle est connaissante pour nous parler du statut de l'immigration au Manitoba et même au Canada. Donc, Réseau en immigration francophone du Manitoba. Quel est votre poste à ce...
Je suis gestionnaire du Réseau en immigration francophone du Manitoba.
Mais en plus, vraiment impliqué dans plusieurs conseils d'administration. Alors, conseil d'administration du Bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface, des conseils d'administration des Amis du Centre culturel franco-manitobain, du CDEM, du Francofond, puis au niveau national, membre du groupe de travail sur la cible en immigration francophone et le comité consultatif national en établissement francophone. Alors, ça vous fait vraiment plusieurs chapeaux. Vous avez choisi de vous impliquer de manière tentaculaire pour vraiment vous impliquer au maximum. Hein?
Exactement. C'est comme notre dossier, le dossier de l'immigration francophone est un dossier justement tentaculaire parce que ça prend vraiment toutes les forces vives et tous les intervenants et toutes les parties prenantes pour justement les impliquer, les sensibiliser pour faire avancer ce dossier qui n'est en fin de compte que... un dossier de société et un dossier humanitaire, après tout.
Votre relation avec le français, finalement, elle commence quand dans la vie?
Elle commence depuis ma tendre enfance. Je suis originaire du Maroc, ce qui fait que c'est un pays qui est arabophone, mais bilingue, français-anglais. Mon éducation, je l'ai faite dans les deux langues, c'est-à-dire en arabe et en français. Au fur et à mesure là, de l'évolution, là, bien entendu, c'est le français qui a pris le dessus de par les orientations de carrière ainsi que des études, etc.
On peut dire que même au Maroc, moi, pour y avoir même débuté mes études, imaginez-vous donc, de 6 à 9 ans, j'étais à Rabat, à l'école Albert Camus. J'y suis retournée dernièrement et j'ai aussi trouvé quand même que l'anglais prenait beaucoup de place, tranquillement, langue économique. Alors, je dois dire que je comprends aussi votre souci, je dirais, de vouloir défendre le français, parce que partout dans le monde, hein, que ce soit dans votre pays d'origine ou ici, le français est quand même une langue à défendre, on va dire ça comme ça.
Définitivement, tout à fait, tout à fait. Puis surtout que même dans ma vie personnelle, étant mariée à quelqu'un qui n'est pas originaire du même pays que moi, donc notre langue en commun à la maison, c'est le français.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous diriez, en quoi consiste le travail au RIF?
Mais le travail au niveau du RIF consiste à rassembler les organismes et institutions et même les instances gouvernementales autour du dossier de l'immigration francophone. Parce que, on s'entend qu'il y a quelques années de cela, quand on parlait d'immigration francophone, c'était le monstre au niveau de la communauté. Et c'était comme cette bête étrangère-là qui n'était pas avec laquelle personne n'était familier, sauf les quelques organismes qui travaillaient directement et dont le mandat était l'établissement et l'immigration francophone, notamment la SFM et l'accueil francophone. Par la suite, s'en venait le CEDEM, l'Université de Saint-Boniface et la division scolaire franco-manitobaine. Mais en dehors de ça, le reste des organismes n'était vraiment pas familier avec le dossier, ce qui fait que leur relation avec ce dossier était ultimement juste ce qu'ils entendaient dans les médias. ou quand il y avait des rencontres là, de concertation là, contre les organismes comme l'accueil francophone dans le temps, parler des programmes et services là, qu'ils offraient. Donc c'était vraiment ça le lien qu'il y avait. Mon rôle, pour revenir à cela, au niveau du réseau d'immigration francophone, c'est de démystifier le dossier, de vulgariser l'information en tant que possible, et puis aussi rassembler, rallier tout ce monde-là pour justement voir de quelle façon on peut concrètement développer des stratégies pour diverses façons et pour s'inscrire aussi dans notre mandat, à savoir la promotion de l'immigration francophone, le recrutement, l'intégration, la rétention des immigrants d'expression française dans l'ensemble du Manitoba, et aussi favoriser la régionalisation, c'est-à-dire encourager à considérer que les personnes immigrantes considère des municipalités ou des collectivités à l'extérieur de Winnipeg pour justement décentraliser puis favoriser notamment la régionalisation. Et donc de ce fait, on a commencé à revoir notre gouvernance au niveau du réseau d'immigration francophone. Et on a identifié, quand je dis on, ce sont essentiellement les membres qui sont au nombre de 25 aujourd'hui, qui travaillent de façon concertée pour justement adapter ou créer des services pour mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants d'expression française.
Vous diriez que ce serait quoi vos stratégies innovantes pour tout ça? Promouvoir, accueillir, retenir les francophones et diversifier leur lieu d'installation.
Je commencerai par dire que l'une des choses qui est vraiment remarquable au Manitoba, cet esprit de collaboration et de partenariat que nous avons, c'est vraiment une force. L'autre élément qu'il y a, c'est vraiment que les membres, ils n'ont pas peur de sortir de leur carré de sable de confort pour explorer d'autres façons de faire et pour justement trouver d'autres façons de mieux répondre aux besoins. Je prends à titre d'exemple le Théâtre Ensemble Molière, qui est aussi un membre du réseau d'immigration francophone. Et on voit des belles initiatives qu'ils ont, notamment à faire venir des artistes de l'international, présenter des œuvres, bien des prestations artistiques, impliquer des personnes issues de l'immigration pour monter des pièces, pour les présenter, etc. Donc ça, ce sont vraiment de nouvelles façons de faire. Les expositions, même ici que nous sommes au CCFM, des expositions d'artistes qui sont issus de l'immigration francophone, les jumeler avec des artistes locaux, pour justement avoir ces différentes perspectives et façons de voir. Donc ça, à mon sens, ce sont vraiment de nouvelles façons de faire. Et puis aussi, quand je pense aussi au camp d'été, qui est un projet de partenariat entre l'accueil francophone et la division scolaire franco-manitobaine, ainsi que d'autres partenaires et organismes comme Pluriel, CEDEM, les centres de services bilingues et autres, qui offrent maintenant la possibilité d'avoir des camps d'été pour les adolescents et moins jeunes, et qui groupe les jeunes issus de l'immigration et les jeunes du Manitoba francophone. Donc ça, c'est une très belle façon de favoriser cette cohésion-là et cette cohabitation en dehors des salles de classe, dans un cadre qui est plus convivial, plus ludique.
Oui, pour se faire des amis, justement. Puis provoquer un attachement.
Exactement, exactement. Et donc vraiment, les exemples sont nombreux. Je pourrais en citer plusieurs, mais c'est vraiment pour dire que on ne manque pas d'idées ni d'inspiration au Manitoba.
Vous êtes une ambassadrice extraordinaire. Déjà, c'est super clair dans ma tête, tout ce que vous faites. Puis, vous diriez que c'est quoi les défis principaux que vous rencontrez?
Écoutez, il y en a plusieurs.
Pour la personne qui arrive,
Il y en a plusieurs. De point de vue des immigrants, le défi qu'il y a, c'est que quand les familles ou les individus arrivent, il y a plusieurs priorités, j'ai envie de dire, dans le sens où il faut qu'ils se trouvent un logement, il faut qu'ils se trouvent un emploi. Pour les personnes qui n'ont pas l'anglais comme deuxième langue étrangère, il faut qu'elles se remettent à niveau et qu'elles apprennent cette langue-là. Donc, ça prend du temps. Et entre-temps, il faut bien subvenir aux besoins de sa famille et puis payer les factures, etc. Donc, ça rajoute une couche supplémentaire de stress. Ce qui fait que ces personnes-là, dans un premier temps, n'ont pas forcément l'espace ni le loisir de s'impliquer davantage au niveau de la communauté. Et donc, la dynamique, elle devient très complexe le temps que les personnes trouvent leur repère et leur ancrage là au niveau de la société. De point de vue organisme et organisation, le défi qu'il y a, c'est que, comme je dis, étant de bancs francophones, nous avons tous le même défi, hein, c'est le problème de ressources financières et humaines qui fait que ça limite nos capacités en tant qu'intervenants. Et donc, de ce fait, on n'a pas toujours cette possibilité et cette flexibilité de faire les choses comme on aimerait le faire. On est toujours lié par les contraintes des divers bailleurs de fonds qui ont des critères beaucoup plus très spécifiques, ce qui fait que la marge de manœuvre reste quand même très étroite, ce qui rend un peu l'offre de services très limitée par moment.
Est-ce que vous trouvez que, au-delà de ce que les institutions peuvent faire, est-ce que la personne francophone ici de souche pourrait faire plus, mieux, comment?
Il y a définitivement eu des très grandes avancées de l'ouverture de la part des organismes et institutions, comme vous l'avez mentionné, du citoyen lambda aussi. Mais ça amène aussi une autre réflexion, à savoir que justement on avait tenu un forum il y a 2 ans de cela pour parler de racisme au niveau de la communauté francophone du Manitoba. Et le titre était provocateur, d'ailleurs il était intitulé « Le racisme au Manitoba, est-ce une réalité ou un mythe ?» Et tout le monde s'entendait que c'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Ça fait partie des choses qui existent. Parfois, c'est dit ouvertement, parfois, c'est très subtil. Et c'est là où ça devient très difficile quand c'est vraiment subtil. Et donc, de ce fait, pour revenir à votre question, il y a encore beaucoup d'efforts et de travail à faire de la part de nous tous, parce que c'est un travail collectif, c'est un effort collectif, c'est la responsabilité de nous tous et toutes pour justement avoir cette société qui soit ouverte et inclusive comme on le veut et qui correspond au slogan du Manitoba qui est le Friendly Manitoba. Donc oui, il y a des progrès qui ont été accomplis, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
Le francophone lui-même, juste par son état de francophone, est-ce qu'il subit du racisme ou de la discrimination, je devrais dire?
Ça dépend de quel point de vue vous abordez la question, hein, parce que quand on est dans une situation minoritaire, parfois doublement, triplement minoritaire, ça rajoute plusieurs couches, j'ai envie de dire, de susceptibilité à devenir de plus en plus vulnérable. Ce qui fait que, dépendamment de la position de la personne, elle peut l'être à différents égards et à différents points de vue et dans différents contextes et situations.
C'est tellement clair la manière dont vous vous exprimez. Je vous remercie de pouvoir aller en profondeur là-dedans parce que je constate ou je réfléchis à ma propre condition de francophone, bien que je sois québécoise et donc supposément en milieu majoritaire, et que moi-même je me sente vulnérable dans cette mer anglophone qu'est l'Amérique. Je ne peux qu'imaginer la pointe de l'iceberg que c'est que de vivre dans une communauté francophone hors Québec. Et c'est ce qui me touche et m'intéresse au travers de tout ça, c'est à la fois ce courage, mais en même temps, cette espèce de compréhension de la difficulté, le ressenti de la difficulté et donc de la facilité que ça peut être d'abdiquer ou de vouloir et d'accepter son invisibilité. Parce que c'est fatigant quand même, hein? C'est de vivre constamment dans une... T'as ta langue maternelle, mais c'est pas nécessairement celle-là que tu utilises quand tu vas faire tes courses, quand tu sais dans ta petite vie quotidienne. Donc, elle s'auto-folklorise dans ta propre vie. Puis, ça demande quand même beaucoup de discipline de conserver ça, hein?
Et beaucoup de persévérance, je dirais aussi, parce que pour un bon nombre d'entre nous, le français n'est pas notre langue maternelle. C'est une langue d'usage avec laquelle, dépendamment vraiment de la situation puis de l'historique de chacun, et dépendamment des pays d'origine, c'est parfois une relation de amour-haine.
Oui, parce que c'est la langue du colonisateur.
Absolument.
Et puis quand on peut s'en libérer, ben allons-y, c'est ça aussi. Hein.
Mais en même temps, ça devient aussi cette langue qui sert de trait d'union avec l'autre, que l'on a envie de connaître et de découvrir, avec lequel on développe des affinités, parfois des intimités, comme dans mon cas. Donc, ce qui fait que cette langue-là, elle prend une autre dimension, et puis ça va au-delà de cette handicap ou bien de cette hantise historique qu'elle peut avoir.
Puis c'est cette langue-là qui a donné des points supplémentaires à votre capacité d'immigrer aussi, non?
Pas forcément dans notre contexte, parce que nous, c'était initialement pour le Québec, on était désignés, donc ce qui fait que c'était par défaut le français.
Mais plusieurs arrivent au Manitoba grâce au... parce qu'ils parlent français et qu'on les privilégie.
Tout à fait, parce que ça s'inscrit dans la stratégie de l'immigration francophone pour la favoriser justement dans un contexte de milieu minoritaire.
Ça résonne à plein de difficultés par rapport à d'où on vient, puis qu'est-ce que voulait dire le français dans son pays d'origine, puis ici tout d'un coup de se retrouver dans une communauté francophone qui, elle, en arrache et doit se battre pour conserver tout ça, puis qui elle-même a déjà une identité double, hein, de colonisateur colonisé. Tout ça est fascinant et complexe au niveau de l'identité, hein?
Ça l'est définitivement. Mais c'est-à-dire si on veut le voir d'une autre perspective, à mon sens, ça devrait être quelque chose qui rapproche davantage les francophones de partout, au lieu de justement les séparer, mm-hmm. les éloigner, parce que il y a justement ce point en commun là, cet mm-hmm, élément en commun là, qui réunit et qui rassemble oui. ces personnes, peu importe d'où est-ce qu'elles viennent, qu'elles soient francophones du Manitoba, nées au Manitoba ou nées ailleurs, ça reste quand même un élément en commun entre les deux qui devrait les réunir plutôt que de les
séparer.
Oui,
puis on a un bel outil de paix au travers de ça, hein, de se réunir autour d'une cause commune à faire grandir de belles façons, tout à fait. Quels sont, à court ou moyenne échéance, vos défis, vos projets présentement?
C'est la sensibilisation à tous les niveaux. C'est un travail continu parce que ça prend l'adhésion de tous et chacun à ce dossier-là pour qu'il puisse vraiment être actif et pouvoir contribuer à ce changement-là sociétal que l'on veut avoir et arriver à avoir cet impact collectif auquel on aspire dans le cadre du travail que nous faisons collectivement.
Est-ce que vous trouvez qu'il faut davantage inclure la communauté anglophone à parler français pour que tout ça arrive?
Ben écoutez, il y a beaucoup de personnes anglophones qui ont cette affinité ou bien cette sympathie, je dirais, pour le français. Le plus d'alliés qu'il y a pour justement faire vivre cette langue et pour la faire valoir au-delà des frontières, que ça soit dans les quartiers francophones, bien dans les communautés francophones, le mieux c'est, je pense, c'est une approche gagnant-gagnant.
Moi, j'ai fait des essais ici, au restaurant, par exemple, dans des mots, même si tu ne parles pas français, tu vas comprendre, tu sais, des bonjours, je vais prendre telle chose sur le menu en le pointant du doigt, la facture, s'il vous plaît, en écrivant dans les airs, tu sais, donc juste rendre ma langue visible. Je le fais comme un jeu, avec une complicité dans l'œil quand je regarde les gens, et puis je vois souvent qu'ils embarquent dans mon jeu. Puis je pense qu'on peut tous aussi commencer par là dans nos responsabilités. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous conseilleriez?
Définitivement, sauf que la petite nuance qu'il y aurait, c'est que pour une personne qui vient d'arriver et qui est unilingue, qui mm-hmm. parle uniquement le français, par exemple, elle peut se sentir gênée et ne pas vouloir embêter la personne, oui. bien l'interlocuteur ou l'interlocutrice.
Bien sûr.
De ce fait, elle va faire tout ce qu'il y a dans son pouvoir pour justement s'exprimer oui. dans la langue de l'autre, pour justement faciliter...
Être acceptée, se sentir... oui, incluse,
c'est justement pour oui. ne pas... pour éviter cette sensation-là, ou bien ce sentiment d'être un fardeau, ou bien de donner la responsabilité à l'autre oui. de la comprendre, de le comprendre. C'est plutôt la responsabilité que prend en main la personne elle-même. Et donc, ce qui fait que ça devient difficile. Tandis que quand on est à l'aise dans les deux langues...
Bien sûr. Oui, je peux jouer avec ça, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. On n'a pas le même background, pour le dire en français, par rapport à ça. Mais oui, c'est sûr que la vulnérabilité d'un nouvel arrivant par rapport à son unilinguisme francophone, par exemple, c'est une grande vulnérabilité, puis on ne joue pas avec ça, effectivement.
Tout à fait.
Merci de la précision, puis ça nous fait bien mieux comprendre aussi à quel point c'est courageux et difficile quand on arrive quelque part et puis que tout est nouveau, mais qu'en plus, on ne peut pas se faire comprendre facilement.
Et je pense que l'une des choses la plus importante qu'il faut garder en tête, c'est les efforts colossaux que les personnes issues de l'immigration font, puis les concessions qui ont été faites, qui continuent d'être faites pour justement juste se faire cette place-là au niveau de la société dans laquelle ils s'établissent, nous établissons. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en perspective pour contribuer à rendre un peu ce parcours, ce passage-là, cet itinéraire un peu plus fluide et plus facile.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez des coups de cœur francophones, artistiquement parlant, ici?
Oui, il y en a pas mal. Notre fameuse Jocelyne Baribeau, elle est formidable.
Je décompte les minutes entre toi et moi, les secondes en suspens avant le retour dans tes bras. Je prends mon envol vert.
Il y a aussi une artiste franco-manitobaine, d'origine marocaine, Fawzia, que j'adore aussi, donc il y en a vraiment pas mal.
Est-ce que vous imaginez que vous allez retourner au Maroc un jour ou c'est ici que ça se passe pour vous, là?
Ben, pour l'instant, c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, même quand je vais en vacances chez moi, je dis, j'ai envie de rentrer chez moi, mon Winnipeg. Uh-huh. Donc, oui, définitivement.
Oui. Avez-vous des enfants ici?
Oui. Oui? Oui, j'en ai deux.
Oui. Puis, oui. Est-ce qu'ils vont à l'école en français?
Oui.
Oui, d'accord. Puis oui. Là, voyez-vous pour eux une vie à Winnipeg en français?
Mais écoutez, en tant que parents, on aimerait toujours avoir nos enfants à côté de nous, hein. Mais je pense que à un certain moment, ils font leur vie,
ouais.
Puis ils décident de leur avenir, et puis là, comme parents, on ne peut encore une fois que les encourager là-dedans. Et on verra ce que l'avenir va nous réserver de ce côté-là.
Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, Salwa Medri. J'ai hâte déjà de vous retrouver.
Le plaisir est partagé. Merci.
Bonne continuité.
Beaucoup. Merci.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.